Micro Méga.
Patrick Chompré.
Jean-Yves Casga.
Et oui, c'est la suite de Micro-Méga, l'actualité scientifique de la semaine. Dernière partie avec vous, Jean-Yves Casga, bonjour.
Bonjour Patrick.
Alors vous savez qu'on peut toujours nous poser toutes les questions, faire les remarques sur l'émission. Il y en a de plus en plus, c'est soit sur le site de RFI, page Micro-Méga, et également sur Facebook, page Micro-Méga également. C'est facile, il y a un logo rouge marqué On Air, vous savez la petite lampe qu'on a à l'entrée du studio.
C'est parce qu'on est à l'antenne quoi.
Voilà, à l'antenne ouais. En bon français. Merci. Une invitée multifacette, on va encore prendre l'eau aujourd'hui, c'est ça?
Oh, et puis encore des femmes, mais je pense que je vais arrêter parce que Cécile Bonici, notre ravissante réalisatrice, commence à trouver qu'il y a beaucoup de concurrence sur le plateau de Micro-Méga multifacette, voilà.
Micro-Méga.
Notre invité, donc, mini-portrait.
Ah, mini-portrait. Alors, ce que j'aime bien, c'est, encore une fois, c'est quelqu'un qu'on aurait pu ne pas avoir. On a quand même vraiment beaucoup de chance. Alors, pourquoi on aurait pu ne pas l'avoir? D'abord, parce que son univers, il est grand comme la France. Mais, 600 000 km², c'est pas mal. Sauf qu'il est réparti sur tous les océans de la planète. Donc, effectivement, pour l'avoir juste ici, en ce moment, faut quand même pêcher au gros. C'est pas simple d'avoir notre invité. On aurait pu aussi ne pas l'avoir parce que je suis gourmand moi et j'adore les petits croissants à la française. Et imaginez que je sois allé à Santa Barbara. Mm-hmm. Vous voyez ? Oui, il y a pire. Et ben j'aurais pu demander un croissant dans une boulangerie française aux États-Unis. Au bord de la mer, les surfeurs, vous savez, les dames en maillot rouge qui viennent vous sauver, etc.
Oui.
Et c'est notre invitée qui nous aurait servi des croissants. Alors, bon, mais elle n'est pas restée là-dedans. On aurait pu aussi ne pas la voir parce que papa médecin, maman instrumentiste en chirurgie, frère dentiste, sœur pharmacienne, elle avait vraiment assez de raisons de faire autre chose que ce qu'elle fait. Sinon... Quand on la regarde, on a un peu de mal à croire que c'est vrai, mais elle me l'a dit, alors je la crois. Il me paraît qu'elle était garçon manqué, plutôt Zorro que Barbie. Alors, moi je veux bien. C'est quelqu'un aussi, alors, quand on la regarde toujours, on pourrait dire qu'elle est provocante, mais elle est surtout provocatrice, parce que elle ne supportait pas d'avoir peur de voler. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appris à piloter un ULM. Il y en a qui auraient dit, je prends ma voiture, mon vélo, je vais quelque part. Non, elle a appris à piloter. Cela dit, dans les peurs à vaincre et les choses que sa profession lui a imposées, il a fallu qu'elle apprenne à piloter un bateau. Il a fallu qu'elle passe un certificat d'hyperbarie, c'est-à-dire plonger très profondément en scaphandre autonome. Or, elle y est arrivée tard. Et le paradoxe, c'est que toute son enfance, c'est sous l'eau, dans le lagon, à côtoyer les coraux, les poissons. Et au final, ce qui a été son enfance est devenu sa vie professionnelle, mais qu'elle ne vit pas seulement comme une vie professionnelle. C'est le moteur de sa vie. Elle se lève le matin, elle est heureuse de travailler. C'est Pascal Chabanet, qui est à part ça chargée de recherche à l'IRD. Voilà.
Bonjour.
Bonjour.
Pascal Chabanet, donc chercheuse plongeuse de l'IRD. C'est vrai, vous étiez boulangère avant, dans une autre vie ?
Un temps, non. En fait, je suis allée aux États-Unis pour faire un master. Et donc, après le master, j'ai voulu arrêter mes études. Et donc, j'ai travaillé. On a monté avec mon ami une boulangerie française à Santa Barbara. Et j'ai travaillé 3 ans dans cette boulangerie française.
Vous rendez compte, hein, réunionnaise. Elle fait ses études à Marseille. Après un moment, elle est un peu à Nice.
Mais c'est ça le monde moderne.
Après, elle va aux États-Unis.
Il découvre la mondialisation, ces gens-là. C'est ça. Les récifs coralliens, vous en êtes donc une spécialiste. Ça s'est passé comment, cette découverte? C'est une passion au départ?
Alors c'est une passion au départ, mais une passion complètement naturelle, parce que moi j'ai grandi au bord d'un récif corallien, La Réunion, donc j'ai passé toute mon enfance à aller dans l'eau, observer avec mon masque les poissons, les coraux et toute la vie associée au récif. Et
donc
puis,
vous le connaissiez bien?
Je le connaissais, tout à fait. Donc, mais à l'image de l'enfant qui découvre un milieu plus au niveau des couleurs, bon c'est très... Et ensuite, je suis partie en métropole. Donc, j'ai fait mes études en environnement marin, donc assez général. Et les récifs coralliens sont revenus vers moi après mon passage aux États-Unis, en fait. Donc, je suis partie faire un master. Je suis restée 4 ans en tout aux États-Unis. Et quand je suis revenue à La Réunion, donc c'est aussi le fruit des rencontres et du hasard, j'ai voulu reprendre mes études. Donc, ça, c'était important pour moi de trouver un métier dans le milieu marin. Et j'ai rencontré René Galzin, qui est donc quelqu'un qui travaille sur les récifs coralliens, qui est un professeur à l'école pratique des hautes études et qui m'a proposé de faire un sujet de DEA sur les récifs coralliens. Donc je suis revenue en fait quelques années après avoir passé mon enfance dans ce milieu, à cette fois-ci l'étudier de manière scientifique. Donc voilà, c'est un peu le début de l'histoire.
Et alors, qu'est-ce qui fait que la petite fille qui nageait dans le lagon se considère comme plutôt un Zorro, un garçon manqué? Parce que c'était difficile, fallait plonger de haut, il y avait une compétition avec les garçons, c'est quoi?
Je dirais que plutôt c'est plus parce que j'aimais bien aller dans le lagon plutôt que de jouer des heures au Barbie. J'aimais bien aller dans la forêt, faire des parties de cache-cache, sauter dans des arbres. Enfin, c'est plus ce côté plus tourné vers la nature que tourner vers l'intérieur en jouant aux poupées, quoi.
Mais le fait que vous soyez et que vous revendiquiez d'être une insulaire et une tropicale, ça vous me l'avez dit plusieurs fois, je suis une insulaire, je suis une tropicale, est-ce qu'on n'a pas plus vite conscience sur une île du respect obligatoire de la biodiversité, qu'il ne faut pas tout saccager parce que le monde est fini sur une île? Alors que quand on est sur un continent, on a l'impression que le monde est infini, donc évidemment on peut avoir psychologiquement l'idée que les ressources sont inépuisables. Mais quand on est sur une île, j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que de respecter le milieu puisqu'il s'arrête.
Oui, tout à fait. Mais cette conscience, on l'a plus tard. On l'a quand on est adulte, pas quand on est enfant. Je pense que quand on est enfant, on a d'autres soucis. Et c'est vrai que je vois même La Réunion, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'environnement dans les 20-30 dernières années où on jetait beaucoup des papiers. La nature était aussi un peu malmenée, même si les gens sont aussi proches de la nature. Mais c'est vrai que cette conscience du milieu fini ou de la limitation des ressources, en tout cas personnellement, moi je l'ai eu beaucoup plus tard. Enfin, je l'ai eu quand j'avais 15, 16 ans, 17 ans.
J'imagine que quand on a 600 000 km² de territoire, parce que là il s'agit des coraux qui sont du territoire de la France sur la planète Terre. Comment on fait pour décider qu'on va étudier plutôt ça? Parce que pour nous, le récif corallien, c'est bon, c'est une entité, mais j'imagine que quand on devient spécialiste comme vous, il doit y avoir des sous-parties, des choix à faire.
Ah, tout à fait. Alors là, c'est d'abord, je vais préciser que les 600 000 km² se trouvent dans mer tropicale.
Donc c'est bon pour vous, ça.
Il faut des eaux entre 20 et 30 degrés, donc c'est tout à fait pour ça que je revendique ma tropicalité. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais
on va le dire.
Alors les récifs coralliens, je pense que c'est toujours... Vous savez, dans la vie, moi, j'ai constaté qu'il y a le fruit du hasard, les petits centimètres cubes de chance qui passent devant nous et qu'on attrape ou pas. Il faut savoir s'adapter aussi à ce qu'on nous propose. Donc, moi, je travaille plus spécifiquement sur les poissons qui sont associés aux récifs coralliens parce que j'ai rencontré cette personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, qui m'a proposé un sujet. Donc, il y a des tas de... On peut travailler... à des tas de niveaux, sur la physiologie du corail, sur la génétique du poisson, sur il y a des tas de domaines très différents. Donc moi, spécifiquement, c'est plus la relation entre les poissons et leur habitat, donc la structure corallienne et les coraux, sur les récifs indo-pacifiques à l'échelle de l'océan Indien. C'est un peu mon domaine d'expertise, c'est l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et en fait, d'étudier l'impact de la dégradation des récifs coralliens sur les poissons. Voilà, ça c'est ma spécialité.
Mais comment ça se passe pratiquement? Vous levez le matin, vous prenez un bateau, j'imagine un équipier pour surveiller qu'il n'y ait pas de danger, et puis vous allez avec vos bouteilles plonger.
Pour une journée typiquement où je vais sur le terrain, parce que je ne suis pas sur le terrain aussi souvent que je l'étais par exemple pendant ma thèse, hein, maintenant je suis chercheur très souvent aussi dans des bureaux devant les ordinateurs, mais si on a des sorties sur le terrain, on a en général... deux ou trois personnes qui partent plonger en même temps. On prend
pour
un bateau.
Pour des raisons de sécurité.
Pour des raisons de sécurité. Maintenant, la plongée professionnelle est très réglementée, donc il faut quelqu'un sur le bateau. Il faut qu'on soit évidemment deux sous l'eau parce qu'on plonge jamais seul, et quelqu'un en surface qui surveille, qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est vrai que c'est contraignant. Hein. Il faut trouver de la disponibilité des gens pour sortir, et puis la plongée, c'est les bouteilles, c'est lourd à transporter, c'est une fois qu'on est dans l'eau, après on rentre tout à fait dans un autre univers.
Et c'est là que commence le danger, parce que vous me disiez, parce que vous pratiquez le yoga, qu'il y a un moment, quand vous êtes dans l'eau avec les bouteilles,
vous êtes quasiment en symbiose avec l'environnement et vous parlez aux poissons presque.
Ouais, tout à fait. Non, mais c'est vrai que une fois qu'on est dans l'eau et qu'on a une certaine habitude de plonger, qu'on n'a plus de contraintes parce qu'on est très léger dans l'eau, on arrive à s'équilibrer, de devenir un oiseau. C'est vraiment un sentiment assez fort. Et en fait, on arrive, à mon avis, pour faire le métier que je fais. Donc, je travaille sur les poissons en comptant ces poissons avec ma petite plaquette et mon crayon noir. Donc, j'observe. J'ai une ligne sur le sol pour matérialiser là où je fais mes comptages. Il faut vraiment être bien dans l'eau. Oublier qu'on est soi-même avec tout cet équipement très lourd. Et moi, j'ai vraiment le sentiment de me fondre dans l'eau. C'est vraiment quelque chose de très fort.
Micro-méga sur RFI, notre invitée multifacette Pascale Chabanais, chercheuse, plongeuse, on le comprend bien, donc de l'IRD, une insulaire, une tropicale, une vie liée aux récifs coralliens. Justement, vous avez parlé de l'évolution donc de l'environnement sur lequel vous travaillez. Alors pour bien qu'on comprenne où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de cris d'alerte sur les récifs coralliens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concrètement de l'état des lieux ?
Concrètement, l'état des lieux, globalement, les récifs coralliens dans le monde sont très dégradés. Hein. Il y a 25%, c'est le chiffre qu'on avance, 25% des récifs qui sont détruits dans le monde et un autre 25%, voire 30% de récifs qui sont vraiment en danger. Donc, ce qui est impressionnant à mon niveau, je dirais, de ce que j'ai vécu dans ma vie, c'est de voir la vitesse de dégradation de ces milieux. Parce que, comme je vous disais, bon, j'ai grandi au bord des récifs, donc à La Réunion, en allant très souvent dans l'eau. Donc c'est vrai que c'est une perception d'enfant qui est peut-être pas très scientifique, mais il y a quand même une perception de couleur. Un récif qui est sain, c'est un récif qui a de la couleur. Mmh. Tout simplement parce que, donc je donne juste un petit élément de biologie très rapide, le récif corallien est fait de petits animaux minuscules qu'on appelle les polypes, qui ont, on va dire, c'est de l'ordre du millimètre, hein, 3 à 5 millimètres maximum. Et ils vivent en association avec des algues qu'on appelle les zooxanthelles et qui leur donnent la couleur, en fait, parce que les milieux coralliens sont des milieux très colorés. Et grâce à cette association, le polype a la force de construire un squelette calcaire. Et c'est donc là, je vous parle de coraux constructeurs de récifs qui sont à la base de ces formations gigantesques qu'on a à la surface de la Terre, qui peuvent faire des centaines de mètres de haut. Donc c'est vraiment un travail sur des millénaires, des millions d'années de travail, de patience, etc., que ces animaux ont construit ces récifs coralliens. Donc si je vous donne ces détails, c'est tout simplement parce que quand je parlais de la couleur, un milieu très coloré, que j'ai vu vraiment se dégrader au cours du temps, à l'échelle de ma vie, hein, qui est bon...
En 20 ans, quoi.
En 20 ans, qui est assez impressionnant. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand le corail, qui est un animal très fragile, est stressé, augmentation de température, pollution ou quoi que ce soit, un changement de milieu, il va expulser ses algues qui lui donnent sa couleur. Et donc, c'est ce qu'on appelle les phénomènes qui sont très inquiétants à l'heure actuelle, c'est des phénomènes de blanchissement corallien.
Donc, c'est le stress qui
c'est
est
le
responsable
qui
est, de
donc,
ce blanchissement.
Voilà, qui expulse ses algues et le corail devient blanc. Donc, quand c'est à petite échelle, encore, bon, on peut se dire qu'il y a moyen de régénérer ces surfaces coralliennes, mais quand ça se passe à grande échelle, comme ce qui se passe de temps en temps avec les problèmes de réchauffement climatique à grande échelle, hein, suite au phénomène El Niño, par exemple dans l'océan Indien en 98, il y a eu vraiment des régions entières qui ont connu ce blanchissement corallien. Donc là, c'est extrêmement inquiétant. Parce que trouver des zones où il y a une régénération, où ils peuvent arriver aussi, alors ce que je vous dis pour la petite histoire aussi, c'est qu'on pond des œufs. Donc pour vous montrer bien que c'est vraiment un animal, pour trouver des zones où les œufs peuvent revenir coloniser pour régénérer des zones récifales qui ont été détruites, ça devient de plus en plus problématique parce que ce sont des phénomènes de grande ampleur. Donc voilà, il faut vraiment savoir que le corail, c'est pas du caillou, c'est un animal qui est très fragile.
Et c'est pour ça que récemment, les récifs calédoniens ont été classés au patrimoine mondial ?
Alors c'est pour une autre cause. Les récifs calédoniens ont été inscrits donc au patrimoine mondial de l'humanité, donc ça date d'un an, hein, c'est récent. Parce que ce sont des récifs qui sont en très bon état. Donc un des critères pour être inscrit au patrimoine mondial, c'est que ce trésor, hein, qu'on a dans les mains peut être transmis aux générations futures. Donc il faut qu'ils soient en bon état. L'autre point important aussi, c'est que il y a très peu de monde en Calédonie. Donc il y a, on va dire, en gros 10 habitants au kilomètre carré, avec 60% de la population sur 1% du territoire qui est Nouméa. Donc très peu de monde, d'avoir un chiffre comparatif. À La Réunion, c'est 270 habitants au kilomètre carré. Donc vous voyez, c'est à une autre échelle. Donc une fois de plus, ils ont une chance pour être transmis en l'état aux générations futures. Donc, et puis, c'est des récifs qui ont une biodiversité remarquable. Où, enfin, ils ont tous les critères qui étaient demandés pour avoir ce label de patrimoine mondial de l'humanité.
Mais comment est-ce qu'on fait pour protéger donc ce récif corallien, justement, si on veut le transmettre en bon état?
Alors, le protéger, c'est toute une... Je pense qu'il y a toutes des plans de gestion, en fait, qu'il faut mettre en place. Et en Calédonie, on travaille beaucoup sur la gestion participative, c'est-à-dire que c'est les populations locales qui gèrent leur patrimoine. Donc, ce n'est pas du tout le mettre sous une cloche, hein, interdire tout, la pêche, on a le droit de plus rien faire. Ce n'est pas du tout ça, en fait. C'est réfléchir à une gestion qui permet, par exemple, de ne pas trop pêcher, de ne pas aller sur certaines zones là qui sont complètement protégées, où on a le droit de rien faire, d'autres où on a le droit de faire des choses. Donc, c'est toute une réflexion qu'on a à faire sur la gestion de l'espace.
Mais sans vouloir vous provoquer, on voit bien, c'est votre passion, vous étudiez ça, mais si demain... Il n'y avait plus de récifs coralliens sur la planète. Ça changerait quoi dans ma vie?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a quand même dans une centaine de pays dans le monde, donc on en trouve beaucoup. Et il y a près d'un milliard d'individus qui dépendent des ressources du récif pour leur survie. Donc c'est vraiment un endroit...
Parce qu'ils vont
endroit...
manger les poulpes, les poissons,
voilà,
les coquillages qui sont là.
Voilà, c'est ça, tout à fait, exactement. Ouais. Donc il y a une biodiversité très importante.
D'accord.
C'est pêcher du poisson, comme vous dites, des poulpes, des coquillages, etc. pour se nourrir. Donc il y a beaucoup d'îles du Pacifique qui ont besoin de cette source de nourriture. Ensuite, l'autre rôle important que jouent les récifs coralliens, c'est un rôle de barrière. Donc en fait, c'est un rempart, un mur en fait, de calcaire qui va amortir les vagues quand on a des cyclones, quand on a des tsunamis, par exemple, comme il y a eu en Thaïlande il y a quelques années. Donc ces vagues qui arrivent du large, qui sont très importantes, sont cassées par le récif corallien. Du coup, il y a un effet amorti et il y a moins d'impact néfaste sur les côtes. Parce que s'il n'y avait pas les récifs, toutes les zones côtières qui sont les zones les plus habitées dans le monde, hein, y a la plupart de, c'est vrai qu'au niveau de la population, sont des zones très peuplées. Il y aurait donc un problème assez grave si ces récifs ne jouaient pas ce rôle de barrière. Ensuite, je dirais aussi qu'il y a beaucoup de recherches qui se font à l'heure actuelle en matière autour de la pharmacologie. Donc, il y a des substances naturelles qui ont des propriétés intéressantes pour faire des médicaments. Donc, tout ça, c'est une recherche assez nouvelle qui se font sur ces récifs. Donc, voilà. Et puis aussi, important aussi, c'est quand même c'est une source de revenus, non seulement de nourriture, mais de revenus pour les gens qui travaillent, qui font de la pêche, du tourisme, etc. Parce que les îles tropicales, c'est des îles touristiques. Donc, c'est aussi un rôle socio-économique assez important.
Et puis, vous m'expliquez que c'est un puits de carbone naturel, puisqu'il a pour faire son squelette en calcaire, il consomme du gaz carbonique.
Voilà, il consomme du gaz carbonique dissous, en fait, associé à du calcium, donc du carbonate de calcium, pour construire son squelette de calcaire. Donc, c'est important. Et puis, peut-être aussi dire que c'est quand même... la France a 10% des surfaces coralliennes dans le monde. Donc, c'est assez important dans les pays du Dom-Tom. Donc, on a quand même une responsabilité en tant que Français pour sauvegarder ces milieux qui concernent... Alors, il y a un chiffre, c'est aussi qui est assez amusant. Il y a un habitant sur 40 qui habite à 30 km des récifs coralliens.
Ah oui,
quand même.
Ça concerne beaucoup de gens.
Ouais. Ah, c'est dommage, Pascal, parce qu'on aurait pu parler de votre talent de cuisinière. Oui, forcément. On aurait pu parler, si, juste un mot, son mari,
tu sais quoi,
il est hydrogéologue. C'est le spécialiste de l'eau douce et elle, spécialiste de l'eau salée.
Ah, c'est pas mal.
Histoire d'eau le soir. Trois petites filles, d'ailleurs.
Pascal Chabanet, merci. Bon travail. Je rappelle que vous êtes chercheuse et donc plongeuse, on l'aura compris, à l'IRD, l'Institut de Recherche et Développement. Merci à vous.
Merci à vous.
Micro-méga, on espère que tout ceci vous aura donné envie d'en savoir plus la semaine prochaine, Jean-Yves, dans cette partie d'émission.
Bien, beaucoup moins de filles, forcément, puisque Cécile insiste, notre réalisatrice. Donc, on va faire la revue de presse, comme ça, il y aura surtout les garçons.
L'émission a été en tout cas réalisée donc par Cécile Bonici et mixée par Thomas Ferrière. Et on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine. À bientôt.